La gloire au Seigneur, bonjour à tous. Nous poursuivons donc notre partage sur le Saint-Esprit que nous avons commencé il y a quelque temps dans cette série sur le Saint-Esprit. On a vu pas mal des actions de l'Esprit, on les a réparties en cinq grandes catégories. Hein. Si vous vous rappelez, on a parlé de la régénération, de la sanctification, du fruit de l'Esprit, du baptême du Saint-Esprit et des dons de l'Esprit. C'est les grands thèmes qui concernent l'action du Saint-Esprit. Et puis pour terminer, puisqu'il y a pas mal encore d'actions qu'on ne peut pas facilement regrouper dans des thèmes comme ça, mais qui sont mentionnées dans la parole, alors on va les voir successivement. Il y a une série environ d'une dizaine d'actions que le Seigneur, que le Saint-Esprit accomplit. Alors je vous invite à ouvrir la parole de Dieu. Alors la première, c'est « Il habite en nous », 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. On va ouvrir la parole de Dieu, donc 1 Corinthiens 3, 16. Et nous allons voir que le Saint-Esprit, une de ses actions, c'est qu'il habite en nous. Voilà, 1 Corinthiens 3, 16 nous dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Et puis l'autre verset que nous pouvons lire, c'est 1 Pierre 4, 14, 1 Pierre chapitre 4 et verset 14 « Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. » Dans ces deux versets, on a « habite en vous »,« repose sur vous », c'est l'action de l'Esprit. « Habiter », »,« oikeo » en grec, « habiter, demeurer », signifie que le Saint-Esprit a fait sa maison de nos corps, de nos vies. Le Saint-Esprit veut demeurer en nous. Alors pourquoi est-ce que le Saint-Esprit demeure en nous ? Parce que Dieu, et nous le voyons dans toute la parole, Dieu désire être en communion avec son peuple. Il désire être en communion avec nous. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit habite en nous. Dieu n'est pas ce Dieu lointain, ce Dieu inaccessible, ce Dieu austère. Il est proche de son peuple. C'est Blaise Pascal qui disait que Dieu n'est pas le Dieu des philosophes et des savants. Et il reprenait cette expression pour dire qu'il est le Dieu de la Bible, le Dieu d'amour, le Dieu qui est proche de ses enfants. On a retrouvé, après la mort de cet homme, dans son vêtement, un petit papier qu'il avait écrit où il racontait l'expérience de sa conversion. Très, très intéressant ce document, qu'il a gardé pendant 8 ans sur lui. Alors il le recousait dans la doublure de ses vêtements au fur et à mesure qu'il changeait de vêtements. Et il expliquait comment il a donné son cœur au Seigneur. Et c'est là qu'il dit qu'il croyait en Dieu, non pas le Dieu des philosophes et des savants, comme il y en a qui croient que Dieu est inaccessible, que Dieu est lointain. Mais il avait fait véritablement une expérience avec lui. Il décrit comment il l'a fui, comment il l'a crucifié, comment il était dans le péché et comment le Seigneur l'a sauvé et que maintenant il lui soumet sa vie. Alors ça, c'est une expérience, c'est l'expérience de la conversion. C'est à partir de là que nous reconnaissons que Jésus est le Sauveur, le Seigneur. Et le Saint-Esprit habite en nous. Dieu désire être proche de nous et faire sa demeure en nous par son Esprit. Nous appartenons entièrement à Dieu. Alors, vous avez le texte sous les yeux. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ? Le mot temple ici, il y a deux mots généralement utilisés dans le Nouveau Testament pour désigner le temple. Et soit c'est le mot hieron ou le mot naos. Le mot hieron qui est le temple et le site du temple avec les parvis. On sait qu'il y avait les parvis des païens ou des gentils, des nations, le parvis des femmes, le parvis des hommes, des israélites et le parvis des sacrificateurs. Alors tout ça, tout le site du temple qui est immense, hein, il y avait énormément de monde qui pouvait se rassembler là dans ces sites, c'est appelé le hieron en grec, mais c'est traduit le temple en français. Tandis que la partie principale du temple qui est limitée finalement au sanctuaire, c'est le naos en grec, sanctuaire, c'est-à-dire le lieu saint, le lieu très saint, qui est somme toute tout assez petit par rapport à l'immensité du site du temple. Et vous voyez que en grec, au moins, ils avaient fait la nuance entre le sanctuaire, le temple proprement dit, central, et puis le site du temple. Donc, le mot qu'utilise Paul ici dans 1 Corinthiens 3, 6, ne savez-vous pas que vous êtes le temple ? Il dit, vous êtes le naos, le sanctuaire. C'est le lieu où résidait la présence de Dieu. Comment se manifestait la présence de Dieu dans l'Ancien Testament ? Elle se manifestait par la Shekinah ou la nuée. Et lorsque la nuée descendait dans le temple, À un moment donné, lorsqu'il y a eu la dédicace, vous savez, sous le règne de Salomon, il décrit cette dédicace et la nuée a envahi le temple tout d'un coup, alors qu'il y avait les musiciens, il y avait les chanteurs, il y avait les sacrificateurs qui officiaient. La Bible dit que la nuée était si présente dans le temple, la présence de Dieu était si forte et la gloire du Seigneur était là. C'était si fort et si resplendissant que les sacrificateurs n'ont pas pu rester dans le lieu, ils ont dû ressortir du temple tellement ils étaient sous la présence, sous la nuée, la présence de Dieu. Ça, c'était la manière de faire dans l'Ancienne Alliance. Et comment se manifeste la présence de Dieu dans la Nouvelle Alliance ou dans la vie du croyant? Comment ça se manifeste maintenant? Eh bien, on a la réponse dans ce texte. Ça se manifeste par la présence du Saint-Esprit. Aussi bien il y avait la nuée dans l'Ancienne Alliance, aussi bien il y a le Saint-Esprit dans la vie du croyant, dans la Nouvelle Alliance. Alors Pierre utilise une autre expression, 1 Pierre 4:14, que vous avez aussi projeté. Il dit « Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, repose sur vous ». C'est un peu la même pensée, « habite en vous, repose sur vous ». Cette expression est intéressante parce que si on lit tout le passage de 1 Pierre 4, à partir du début, on se rend compte que Pierre va parler du croyant qui traverse des épreuves. Il parle de la fournaise de l'épreuve. Est-ce que vous trouvez étonnant? Alors ne trouvez pas étonnant, il dit de passer par la fournaise de l'épreuve. Alors nous, on est toujours étonnés, on est toujours surpris pourquoi Dieu permet tel ou tel moment. Alors, on connaît des moments de souffrance, on connaît parfois des moments terribles, on a même l'impression que Dieu nous a abandonnés. Mais pourtant, Pierre dit, ne trouvez pas étrange de passer par la fournaise. Et nous réfléchissons en disant, mais si Dieu nous aime, pourquoi est-ce qu'il permet la souffrance du juste? Et quelque part, nous sommes toujours étonnés de cela. Et Pierre nous rappelle une grande leçon dans tout ce passage, c'est que ces outrages, là il utilise ce mot-là, hein, dans le verset 14, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, donc les outrages, les épreuves que nous traversons à cause de Christ, bien au lieu de nous abattre, parce que normalement quand on est outragé on devrait être abattu, il dit au lieu de cela ça va vous procurer une joie parce que vous avez la présence du Saint-Esprit qui repose sur vous. Et c'est ainsi que du mal, Dieu va le transformer en bien. Alors Pierre nous explique cela, c'est que notre joie ne dépend pas des circonstances par lesquelles nous passons, qui sont parfois positives ou parfois négatives, mais notre joie dépend du fait que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur nous. C'est comme ça que vivaient les premiers croyants, qui pouvaient être outragés pour le nom de Christ, mais qui en même temps pouvaient être heureux d'avoir été jugés dignes, d'avoir subi des outrages pour le nom de Christ, parce que l'Esprit de gloire repose sur eux. Donc, nous, c'est la même chose. J'aime bien cette expression comme il est dit que l'Esprit de Dieu repose, parce que en même temps, nous pouvons penser qu'il nous communique du repos, parce que l'Esprit est paisible. L'Esprit nous communique la paix, et c'est l'image de la tranquillité dans l'épreuve. Nous sommes toujours dans le contexte de la fournaise, des situations tragiques, et pourtant, Paul utilise l'Esprit repose, et communique sa paix, et communique sa tranquillité, alors que nous devrions être agités, alors que nous devrions être paniqués, eh bien, nous avons le repos et la paix de Dieu. Ceci nous montre que le Saint-Esprit n'est pas seulement là quand tout va bien, mais il est aussi là, il repose aussi sur nous, quand rien ne va plus comme on l'a pensé, le Saint-Esprit est là quand même, et nous ne devons pas l'oublier. Alors, nous connaîtrons la fournaise, nous connaîtrons la souffrance, nous connaîtrons les outrages, mais néanmoins, Pierre nous rappelle que l'Esprit ne nous abandonne pas et qu'il repose sur nous. Il habite en nous, il repose sur nous. Deuxième élément que nous trouvons dans la parole, le Saint-Esprit, une autre action, il nous fait réaliser notre filiation spirituelle. Et là, nous pouvons lire Romains chapitre 8 et le verset 15 à 16. Romains 8, 15 nous dit « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte ». Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc il rend témoignage, l'Esprit rend témoignage à notre esprit humain que nous sommes enfants de Dieu, notre filiation spirituelle. Alors, l'Esprit est appelé ici « esprit d'adoption ». En contraste, vous avez remarqué, il y a deux esprits, hein, esprit d'adoption d'un côté, l'esprit de servitude, c'est celui qui est hérité par la nature humaine, mais quand on vient au Seigneur, on reçoit l'esprit d'adoption. Il faut se rappeler que l'adoption était très fréquente dans les milieux grecs et romains dans lesquels Paul s'exprime ici. Même un certain nombre d'empereurs étaient des fils adoptifs, on le sait dans l'histoire. Donc jusqu'aux empereurs, l'adoption était pratiquée de manière très courante. Tandis que dans le monde juif, on n'a pas d'exemple tellement dans la parole de cette coutume-là. Mais Paul ici s'adresse aux Romains, et qui sont très habitués à cette pensée de l'adoption. Mais qu'est-ce que l'adoption ? L'adoption, c'est de recevoir une position qui nous est accordée alors que l'on ne l'a pas de nature. Par exemple, on adopte un enfant et il va devenir réellement, il va faire partie de la famille. Ça y est, il a les mêmes droits que les autres enfants. Et dans le Nouveau Testament, l'adoption, ça signifie que par la grâce de Dieu, nous passons du statut d'esclave de la loi, où c'est l'esprit de servitude dont on parle dans ce verset, Romains 8, 15. C'est pas un esprit de servitude, ça c'est notre état d'esclave, et puis pour les juifs c'est esclave de la loi, à celui d'enfant, ça c'est le nouveau stade, enfant de Dieu. Nous étions esclaves, nous sommes devenus enfants de Dieu. L'esclave, lui, il vit dans la crainte. Il a un maître qui est au-dessus de sa vie, le maître peut exiger des choses, le maître peut lui donner des châtiments, donc il vit dans la crainte, il vit dans la peur. Tandis que le fils, il vit dans la confiance en son père. Il y a une autre relation entre l'esclave et le maître qu'entre le père et le fils. Et nous sommes passés d'un statut à l'autre. La plupart des religions, d'ailleurs, ont introduit cette relation de crainte entre les gens et la divinité. Il y a une peur du divin, dans le sens où les événements, les catastrophes, c'était comme la manifestation de la colère des dieux, comme dans beaucoup de choses de l'Antiquité. Les dieux, c'était tout ce qui faisait, bien sûr, lever le soleil, mais aussi quand il y avait des catastrophes. Alors, il fallait apaiser les dieux par toutes sortes de sacrifices, voire des sacrifices humains. Alors, on a tout ça dans les époques différentes. Même les Hébreux, à certains moments, ont eu peur de Dieu. Ils ont eu tellement peur de l'Éternel qu'ils ont dit à Moïse, nous ne voulons plus nous approcher de ce Dieu. Tu iras pour nous. Lorsque, à la sortie d'Égypte, la montagne était pleine de fumée, il y avait du feu, il y avait des tremblements de terre, et les Hébreux étaient saisis de crainte. Ça, c'est donc l'ancienne alliance. Et nous devons maintenant passer dans l'adoption. L'esclavage, c'est l'ancienne vie. C'est vrai qu'on peut dire que l'esclave, même s'il est dans la maison d'un homme très riche, il bénéficie de certains avantages, parce que l'esclave de l'époque, il avait quand même... c'était pas comme un esclave enchaîné, si vous voulez. Il servait dans la maison. Donc, il pouvait vivre dans un certain confort, si c'était une belle maison, si c'était un homme très riche qu'il servait. Donc, il avait quand même des avantages. Mais le fils, il a plus d'avantages dans le sens où il devient héritier du père. Et là, nous changeons de condition. Nous n'avons pas simplement les avantages de la maison, mais nous sommes héritiers. La Bible dit héritier. Et co-héritier de Christ, héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Donc c'est un changement de statut. Le fils peut disposer librement des biens. On a cet exemple dans la parabole du fils prodigue. Vous avez ce deuxième fils qui est resté à la maison et qui, lorsque le fils qui s'est égaré dans le péché revient, alors que le père fait sacrifier le veau gras, lui il est très attristé, il est très malheureux. Il voulait que le père le fasse pour lui, et le père n'a jamais rien fait pour lui, il manifeste son mécontentement. Et le père lui rappelle, mais toi tu étais dans la maison, tout ce que j'ai, lui dit le père, est à toi. Lui il était fils, il était héritier, et le père lui dit, tout ce que j'ai est à toi. Il pouvait disposer des choses, c'était pas un esclave, c'était pas un serviteur. Et pourtant, dans sa manière de parler à son père, ce deuxième fils, il se considère comme un esclave. Ça veut dire qu'il n'a pas compris sa position, que le Père voulait qu'il ait dans la maison. Mais ça nous parle à nous, parce que nous sommes chrétiens et nous devons comprendre quelle est notre position. Nous ne sommes pas des esclaves ce matin, nous sommes des enfants de Dieu. Et nous sommes passés de la servitude à la filiation, à l'adoption. L'esprit de servitude ne vient pas de Dieu. L'esprit de servitude est lié au péché. C'est le péché qui a détérioré notre relation avec Dieu, qui a fait qu'on a eu peur de Dieu. Regardez l'exemple d'Adam. Lorsqu'il a désobéi avec Ève, bien, d'un coup, la relation avec Dieu a été brisée. Il a eu peur de Dieu. Il est passé dans l'esprit de servitude, alors qu'il était dans l'adoption avant. Il était vraiment enfant de Dieu, fils de Dieu. Mais sa crainte dominait maintenant, et il a, à cause du péché, il a basculé. Tandis que l'esprit d'adoption, il vient vraiment de Dieu, il est lié à notre sanctification. Aussi bien l'esprit de servitude est lié au péché, mais l'esprit d'adoption, il est lié à la sanctification. Vous voyez, c'est deux modes opératoires opposés. Alors, on a cette expression-là, par l'esprit qu'on a reçu, l'esprit d'adoption, on crie « Abba, Père ». Et ce cri, c'est pas fréquemment utilisé dans la Bible. Je crois que c'est le seul endroit dans le Nouveau Testament où ce verbe-là, « crier », est utilisé pour s'adresser à Dieu. C'est une sorte d'adoration publique, comme un cri du cœur, on pourrait le traduire comme ça, un cri du cœur, Abba Père, ça veut dire j'ai réalisé. C'est comme si la lumière était rentrée dans nos cœurs et on a réalisé qu'on est enfant de Dieu. Abba, ça signifie papa, un terme assez familier, utilisé surtout pour les enfants, pour parler à leurs parents. Et ce mot Abba était soigneusement évité dans les synagogues par les rabbins, par les juifs, qui ne le considéraient pas assez respectueux pour s'adresser à Dieu. Ils l'appelaient parfois, il le considérait comme un père, mais pour appeler Dieu papa, c'était une connotation un peu familière. Il ne le souhaitait pas. Or, Jésus lui-même, lorsqu'il est à Gethsémané en train de lutter parce qu'il va donner sa vie pour le monde, il va s'adresser à Dieu de cette manière-là, en disant Abba, papa, hein, de cette manière aussi intimiste. Est-ce que ça veut dire que Jésus manquait de respect pour Dieu ? Non. Mais ça signifie qu'il avait une grande proximité, une grande liberté dans l'accès à Dieu. Et il nous montre la voie, si je puis dire, pour que nous-mêmes, nous ayons la même liberté quand nous nous adressons au Seigneur. Nous pouvons l'appeler père ou papa, pour montrer qu'on est vraiment des enfants de Dieu. Maintenant, nous avons ce privilège. La Bible déclare que nous sommes devenus enfants de Dieu. Alors, la Bible dit de nombreuses reprises, nous sommes enfants de Dieu. Quand est-ce que ça s'est produit? Nous n'avons pas toujours été enfants de Dieu. Il y a un moment où, lors de la nouvelle naissance, qu'on a reçu Jésus dans notre vie, on est né de nouveau, on est devenu enfant de Dieu. Par nature, on n'est pas enfant de Dieu. Par nature, la Bible dit qu'on est enfant de colère. Donc nous sommes nés dans le péché, séparés de Dieu, enfants de colère, et nous sommes devenus enfants de Dieu. Quand? Au moment de la conversion. Comment on est devenu enfant de Dieu? Ce n'est pas par nos œuvres, ce n'est pas par nos mérites, mais c'est par une décision de Dieu de nous adopter. Je ne pouvais pas devenir enfant de Dieu par moi-même. Il a fallu que Dieu dise, je vais l'adopter. Il a cru, il a mis sa foi en moi, alors je l'adopte. Je fais de lui mon enfant. C'est toujours le supérieur qui adopte l'inférieur. Nous, nous sommes aux bénéficiaires en quelque sorte. Dieu est notre roi ce matin. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et si on est adopté par un roi, alors nous devenons héritiers, prince dans le royaume qu'il nous confie. Et nous avons ainsi des privilèges grandioses. Notre Dieu, c'est le supérieur, c'est lui donc qui agit, qui nous adopte. Maintenant, comment est-ce qu'on peut être sûr que nous sommes enfants de Dieu? Alors, ce verset nous répond, c'est par le témoignage du Saint-Esprit qui nous convainc que nous sommes enfants de Dieu. C'est le moyen que nous avons d'être sûrs d'être enfants de Dieu. D'une part, la Bible le dit, et d'autre part, le Saint-Esprit le garantit, le confirme. Alors, il y a cette expression, il le témoigne. Un témoin, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a vu, qui a entendu des choses et qui va pouvoir les retransmettre. Et le témoignage, c'est capital. Quand il y a, par exemple, un procès, quand il y a, on a besoin d'un témoignage, une accusation, par exemple, alors le témoin va être entendu et c'est nécessaire qu'il puisse apporter ce témoignage. Donc, le Saint-Esprit, c'est ça. C'est un témoin qui va dire qu'il confirme, qu'il atteste que Dieu a fait de nous ses enfants. Il l'a vu, il l'a entendu et il nous le rappelle à notre esprit. Ainsi, ce verset nous enseigne trois choses. Premièrement, il me dit « Je ne suis plus esclave, plus d'esprit de servitude ». Deuxièmement, « J'ai été adopté par Dieu qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs ». Et troisièmement, « Je peux en avoir la conviction parce que le Saint-Esprit me le confirme dans mon esprit. » Voilà pour cette partie. La deuxième, il nous fait réaliser notre filiation. Troisième action de l'esprit, il nous a scellés. Et là, on trouve cette expression dans plusieurs versets. Éphésiens chapitre 1, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. Et on peut lire 2 Corinthiens chapitre 1, verset 22. Dieu nous a aussi marqués d'un sceau et nous a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Alors dans le premier verset, on voit qu'il y a deux étapes qui sont évoquées et qui sont distinctes, et puis il y a une conséquence. La première étape, dans Éphésiens 1, verset 13, c'est on entend la parole de Dieu. Vous, après avoir entendu la parole de la vérité. Donc c'est la première étape. Il ne s'agit pas simplement de l'entendre comme on entend la radio ou comme on entend quelqu'un qui vous parle, avec peut-être des fois une oreille distraite, mais il s'agit de l'entendre en recevant le message de Dieu. Alors chacun a la liberté, c'est vrai que beaucoup entendent la parole de Dieu, mais combien reçoivent, je veux dire, entendent avec les oreilles du cœur, ça c'est différent. Et il y en a certainement moins. Donc, le message est annoncé, nous devons l'entendre, le recevoir dans notre vie. On a toujours la liberté, bien sûr, de l'accepter ou de le rejeter. Mais j'aimerais dire que la Bible, ce n'est pas un livre ordinaire, ce n'est pas un livre comme les autres. Certains le prennent comme un roman ou comme un livre d'histoire. Je crois qu'il y a une différence entre la parole de Dieu et tous les autres livres. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu nous révèle le cœur de Dieu et le plan de Dieu pour l'humanité. C'est le seul livre qui explique aux hommes comment nous pouvons aller au ciel et comment ça se passe après la mort. Donc c'est un livre essentiel. Si on ne devait garder qu'un seul livre, bien sûr c'est la parole de Dieu, il n'y en a pas d'autre au-dessus de la Bible. Alors, cependant, certains l'entendent, vont même lire la parole de Dieu, mais ne la considérant pas comme elle est, c'est-à-dire parole de Dieu, mais ils la considèrent comme un ouvrage humain, eh bien, elle ne va pas faire le fruit dans leur cœur. Et ils vont rester là, en entendant, mais ce n'est pas suffisant. La deuxième étape, c'est de croire. Ils ont entendu, donc ils ont reçu favorablement, et ils ont cru le message. Ils ont cru en Jésus. Les Éphésiens ne se sont pas contentés d'entendre, ils ont fait l'étape supplémentaire. Ils ont cru que Jésus est le sauveur du monde. Et ça a changé leur vie. Selon Jésus, l'humanité, c'est très simple. C'est divisé en deux catégories de personnes. Il a dit, il y a ceux qui croient en moi, il dit, ceux qui croient en Jésus, et puis ceux qui ne croient pas. En gros, ça fait deux catégories de personnes, si on simplifie les choses. Et tout le reste vient des hommes. C'est-à-dire qu'il y a environ 10 000 religions qui existent dans le monde. Eh bien, tout ça, c'est les hommes qui ont inventé des choses pour essayer de se tourner vers Dieu. Mais en réalité, pour Dieu, les choses sont extrêmement simples. Il y a ceux qui croient et il y a ceux qui ne croient pas. Et ainsi, ceux qui croient, ceux qui ont la foi, eh bien, c'est ceux qui pourront accéder au ciel et qui ont le salut. Donc, ils ont entendu la parole, ils ont cru en Jésus, ça c'est décisif, parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu et il est impossible d'être sauvé, donc la foi c'est essentiel. Maintenant, la conséquence, c'est le troisième chose qu'on voit dans ce verset. Après entendre et croire, la conséquence c'est qu'on est scellé de l'Esprit, et c'est ce que nous méditons, l'action de l'Esprit, c'est un sceau. Un sceau, c'est un cachet qui est apposé par l'acheteur sur un objet qu'il s'est approprié. Il a mis son sceau, maintenant, cet objet lui appartient, personne n'a le droit d'y toucher, c'est la propriété de cet homme qui a mis son sceau. Et le sceau, c'est quand même la preuve, aux yeux des autres, que cet objet appartient maintenant au propriétaire. Alors Paul prend cette image très simple du sceau, qui était très commune à l'époque, surtout à l'église où il s'adresse, à Éphèse, dans le port d'Éphèse, il y avait des quantités d'amphores qui étaient marquées du sceau des propriétaires, parce que c'était un lieu de commerce. Ces amphores de vin donc portaient le cachet de l'acheteur, et ainsi c'était leur propriété. Et Paul reprend cette image très simple pour montrer que les chrétiens, c'est la même chose. Ils ont un cachet sur leur vie, comme un sceau divin, et c'est l'Esprit qui nous a marqués, pour montrer que maintenant nous sommes la propriété de Dieu. En quelque sorte, on a changé de propriétaire, on appartenait au diable, à Satan, à cette vie de ce monde, de péché, nous étions loin de Dieu, mais depuis que nous avons été marqués du sceau du Saint-Esprit, bien c'est le signe aux yeux du monde spirituel que nous appartenons maintenant à Dieu. Et ça, comme ça, nous sommes gardés et nous sommes sûrs que le Seigneur veille sur nous. Alors il dit, voyez, pour confirmer cela, il utilise l'expression « c'est un gage » dans notre verset. Il dit « Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage ?» Ou dans l'autre verset, 1 Corinthiens 1:22, « Il a mis dans vos cœurs les arts de l'Esprit. » En réalité, c'est le même mot. « Gage » et « art ». En grec, c'est le même mot qui est traduit de deux mots différents ici. Mais il désigne un acompte qui était très courant, qui existe encore aujourd'hui d'ailleurs. Quand on doit verser des arts ou un acompte, c'est parce qu'on veut acheter un bien et qu'on le réserve, ça y est, on s'engage. Alors, on ne peut pas verser la somme totale maintenant, mais comme signe d'engagement qu'on va faire l'affaire, eh bien, on verse 10% ou 20% de la somme, et ainsi l'objet nous est réservé. Et César signifie que Dieu s'est engagé en quelque sorte pour nous. Il nous a rachetés et les arts de l'esprit sont là comme un acompte qui nous garantit que Dieu va achever la transaction, si on peut dire. C'est-à-dire que nous serons complètement rachetés et que nous lui appartiendrons entièrement, même après notre mort, lorsque nous aurons quitté ce corps et que notre âme sera auprès de Dieu, nous recevrons un corps glorifié. Donc ces arts de l'esprit témoignent que nous aboutirons un jour à la rédemption totale. Et c'est déjà une certitude que nous pouvons avoir dans notre cœur. Ça, c'était le troisième. La quatrième action du Saint-Esprit, c'est qu'il vivifie. Il nous vivifie. Jésus le dit dans Jean chapitre 6, verset 63. C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et puis 2 Corinthiens 3:6, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et dans plusieurs passages, on a cette confirmation que l'esprit procure la vie. Bien sûr, dans Jean 6, dont on a lu un extrait ce matin dans la Sainte-Seine, Jésus va faire un discours. Un discours qui va d'ailleurs être assez mal perçu, parce que Jésus va dire que celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, il a la vie éternelle. Et là, ça a beaucoup choqué, même autour de ses disciples. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Mais Jésus parlait parfois un langage très direct. Alors, certains ont été choqués à tel point qu'ils ont fini par se séparer de Jésus. Est-ce que Jésus a renié ses propos? Est-ce que Jésus a dit « je me suis trompé, je n'aurais pas dû dire ça » Il n'a pas dit ça. Au contraire, il a confirmé. Simplement, il a dit « ce que j'ai dit, c'est pas d'un sens, on va dire, c'est pas d'une manière humaine qu'il faut le comprendre, c'est d'une manière spirituelle. » Et bien souvent, Jésus, par exemple, quand Jésus a dit « détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai », ce n'est pas d'une manière humaine qu'il parlait, mais d'une manière spirituelle, il parlait du temple de son corps. Et bien souvent, les gens n'ont pas compris les paroles de Jésus parce qu'ils les recevaient comme selon la chair, comme selon l'humanité. Et ainsi, quand Jésus disait « manger sa chair, boire son sang », ça paraissait difficile à admettre et impossible pour notre intelligence d'accepter ces choses-là. C'était donc pas de cette manière qu'il faut le comprendre. Mais Jésus donc l'a expliqué dans ce verset qu'on lit, verset 63, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien, c'est-à-dire que ce n'est pas le corps en lui-même, mais c'est l'esprit qui va falloir réaliser, c'est la Sainte Seine qu'il est en train de présenter, c'est-à-dire que ce corps va représenter, le pain va représenter le corps et le vin va représenter le sang, etc. Il est en train, si vous voulez, d'annoncer sa mort à la croix et qu'un jour, bien, tous ceux qui croiront, ils prendront le pain qui représente son corps. Ils mangeront en quelque sorte sa chair, mais de manière spirituelle. Et puis, ils prendront le vin qui représente son sang. Effectivement, on boit bien le vin, mais on pense au sacrifice de Jésus. Et ce message-là était tellement fort que ça a passé complètement à côté de l'esprit de beaucoup. Et en réalité, seuls les vrais chrétiens peuvent comprendre ce que Jésus veut dire quand il dit « manger ma chair et boire mon sang ». Parce qu'il nous faut le comprendre de manière spirituelle. Et pour le comprendre de manière spirituelle, il faut avoir reçu l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui vivifie, c'est l'Esprit qui nous permet de comprendre ce que Jésus veut dire, ben sinon on ne peut pas comprendre. Donc Jésus va préciser, l'Esprit vivifie, il dit par nature, nous sommes pécheurs, nous sommes séparés de Dieu, mais quand le Saint-Esprit va venir en vous, il va vous communiquer la vie et vous allez comprendre ce que signifient ces paroles. Donc, c'est essentiel de recevoir l'Esprit pour être vivifié. Paul, dans le verset aux Corinthiens, 2 Corinthiens 3:6 qu'on a lu, lui, il va faire le contraste entre la lettre, c'est-à-dire la loi, la lettre tue, mais il pense à la loi, et le ministère de l'Esprit, l'Esprit vivifie. Dans la première alliance, c'est-à-dire l'alliance selon la loi ou la lettre, le but de la loi, c'est de montrer que l'homme est pécheur. Donc la loi, il va expliquer que la loi, elle a un ministère de condamnation, un ministère de mort, pour amener les gens à faire prendre conscience qu'ils sont morts et séparés de Dieu. Mais la loi ne justifie pas, et c'est là qu'on va devoir passer dans la deuxième alliance. Elle place les hommes sous la sentence de mort, leur dit « vous devez accomplir les commandements, mais vous en êtes incapables ». Et en même temps, il y a eu tous ces sacrifices qui préfiguraient le sacrifice de Christ. Mais les sacrifices, c'était le moyen d'être pardonné de nos péchés. En quelque sorte, on ne pouvait pas se pardonner soi-même, il fallait passer par les sacrifices. Alors, ça, c'était l'ancienne alliance. Les sacrifices étaient provisoires. Dans la deuxième alliance, cette alliance qui n'est plus selon la chair, mais selon l'esprit, maintenant, le but... Ce n'est plus un ministère de condamnation comme la loi, c'est un ministère de justification. Et là, nous sommes par l'Esprit. L'Esprit vivifie, c'est-à-dire qu'il va communiquer la vie spirituelle aux croyants et va lui accorder non seulement la vie, mais aussi la puissance par l'Esprit pour vivre la parole de Dieu, les commandements de Dieu, ce qui manquait dans l'Ancienne Alliance. Donc, sans l'Esprit, toute tentative de religion est vaine et aboutit inexorablement à la mort, puisque la lettre tue, et sans l'esprit, il n'y a pas de vie possible. Donc il peut y avoir tout l'extérieur du christianisme, pour prendre l'image de la religion chrétienne. On peut avoir tout l'extérieur du christianisme, venir à des réunions où on parle de Jésus, mais s'il n'y a pas la vie de l'esprit, s'il n'y a pas la vie inhérente, ben c'est une religion morte, comme les autres finalement, et il manque l'essentiel. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Il y a une grande différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Et pour terminer, la cinquième chose que Dieu, que l'Esprit accomplit, Éphésiens chapitre 3, verset 14, « À cause de cela, dit Paul, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. » Donc, le Saint-Esprit nous fortifie. Nous sommes puissamment fortifiés par l'Esprit. On voit que Paul ici va prier pour les chrétiens d'Éphèse. Et il prie pour ses frères, pour ses sœurs. Pourquoi ? Pour qu'ils soient puissamment fortifiés par l'Esprit. Il est loin d'eux. Il n'est pas présent au milieu d'eux parce que Paul n'est qu'un homme. Il est limité, il avait aussi ses faiblesses, ses difficultés. Mais néanmoins, il connaît quelqu'un qui peut fortifier, qui peut apporter ce que lui-même ne pouvait pas apporter. Parce qu'il sait que l'Esprit allait répondre parfaitement à leurs besoins. Ils avaient besoin de force, bien l'Esprit pouvait le faire. Notre être intérieur, dans quel état est-il ? Il connaît parfois des secousses et il est parfois abattu. On sait que c'est un être intérieur sensible, hein. On a des émotions, des sentiments, et ça nous fragilise. Et c'est pourquoi parfois on a des sentiments de déception, des sentiments d'abattement qui sont là en nous. Et on a besoin, comme les Éphésiens, d'être fortifié dans notre être intérieur. Parce que si on n'est pas fortifié, bien, on sait très bien que quand on est démoralisé, ça va agir aussi sur notre physique, et puis on va avoir envie de rien faire, et on va perdre toute envie de servir le Seigneur. Alors Paul sait très bien comment on peut être fortifié et comment on peut retrouver un esprit de victoire. Il dit, c'est par le Saint-Esprit. L'Esprit va nous communiquer des forces nouvelles afin qu'on puisse le servir, afin qu'on puisse aller de l'avant pour lui, que nous soyons plus solides. Il y a les tentations qui sont là, il y a les épreuves qui sont là, il y a le découragement qui est là, mais le Saint-Esprit va nous fortifier ce matin afin qu'on puisse triompher de toutes ces choses et continuer le chemin pour Dieu. Les combats ne diminueront pas, frères et sœurs. On peut essayer de prier, Seigneur, maintenant permets que je n'ai plus de combat jusqu'à ton retour, par exemple. C'est pas le genre de prière que Dieu peut exaucer. Quand on est chrétien, on a toujours des combats. On en aura toujours jusqu'à notre dernier souffle, c'est un fait. C'est quelque chose que nous devons admettre, accepter. Néanmoins, la solution n'est pas de prier pour éviter les combats, mais de prier comme Paul, Seigneur, j'ai besoin d'être puissamment fortifié dans mon être intérieur. Comme ça, les combats vont continuer, mais moi, étant fortifié, je vais les traverser avec la paix de Dieu. Alors nous n'avons pas... j'allais dire, les combats que nous traversons ne sont pas simplement humains, ils sont spirituels. C'est vrai que les combats humains, c'est parfois difficile, mais nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, dit l'Évangile, l'apôtre Paul. Nous avons à lutter contre des puissances spirituelles élevées. Il parle d'autorité, de domination, de prince de ce monde de céleste. Comment voulez-vous faire humainement pour lutter contre des puissances spirituelles ? C'est-à-dire, on est battu sur le plan humain. Par contre, si on est fortifié sur le plan spirituel, donc comme dit ce texte, puissamment fortifié par l'Esprit de Dieu, à ce moment-là, on se rend compte qu'on peut avoir un impact contre les autorités, les puissances et les dominations. Mais cela nécessite, avant, que l'on ait été fortifié dans notre vie spirituelle. Alors les combats ne diminueront pas, les combats sont intenses, ils sont puissants. Les démons ne craignent même pas les hommes. Ce qu'ils craignent, c'est le nom de Jésus. Et j'ai remarqué dans ce verset, voyez-vous, qu'il est dit, on va être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Et c'est au nom de Jésus que nous allons faire fuir les puissances de ténèbres. Car c'est au nom de Christ que ça va se passer. Vous voyez que tout est bien expliqué dans la Bible. L'Esprit agit de telle sorte que Christ soit en nous, et donc c'est cela qui va permettre que le combat porte du fruit. Car nous ne combattons pas en notre nom, mais au nom de Jésus. Amen. La parole de Dieu nous dit, dans Zacharie, ce n'est pas par la puissance, ce n'est pas par la force, mais c'est par mon Esprit, dit le Seigneur. Ainsi, nous allons triompher. On a vu déjà 5 actions, il en reste encore à peu près autant. On les verra dimanche prochain pour terminer cette série sur l'action de l'Esprit. Nous voyons les diverses actions encore qu'on n'a pas eu le temps de voir dans toutes les autres réunions. Et bien déjà, nous pouvons prier le Seigneur et demander à Dieu qu'il fortifie chacun, qu'il vous bénisse, qu'il nous remplisse de cet Esprit. Vous voyez qu'on en a vraiment besoin parce que c'est lui qui nous communique la vie, c'est lui qui nous fortifie, c'est lui qui agit en nous, qui nous conduit. On va le voir aussi la semaine prochaine, il nous aide, il nous communique la joie, il nous donne la liberté. Il y a encore beaucoup d'éléments qui vont s'ajouter, qui vont nous montrer que c'est essentiel dans la vie du croyant, cette relation au Saint-Esprit. Merci de bénir mes frères, mes sœurs, Seigneur, et de nous accorder tous ensemble ce renouvellement de l'esprit et de vie, car nous ne voulons pas être des chrétiens oublieux de ta parole et négligeant ces choses, mais au contraire, les repasser dans notre cœur, sans cesse, parce que tu nous appelles à une vie intense, une vie de victoire par l'Esprit. Et nous désirons, Seigneur, te prier pour chacun afin que nous puissions faire des progrès, avancer dans toutes ces directions que tu nous proposes, qui sont à notre disposition. Merci de renouveler les forces de mes frères, de mes sœurs, de nous encourager dans les combats, de ne pas baisser les bras malgré que parfois tout semble perdu. Seigneur, tu es là. Malgré tout, tu reposes sur nous, tu nous communiques ton repos. Tu nous communiques ta paix, Seigneur. Merci de fortifier nos cœurs, nos vies, de nous apprendre à dépendre entièrement de toi et à faire ta volonté, et que toute la gloire te revienne en toutes choses. Amen.